Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Voilà, nous sommes dimanche et il y a quelques jours, nous commémorions le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. C'était le 5 mai 1821. Alors, bon nombre, bien sûr, d'ouvrages sont sortis. Il y a les grands historiens et puis il y a aussi les autres, ceux qui sont aussi amoureux de Napoléon. Et le livre dont nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, on va parler de Napoléon, mais on va l'aborder d'un côté original, d'un homme qui a écrit ces textes et est parti il y a bien longtemps, en 1841. C'était Édouard Bignon, qui était un diplomate français. Et pour nous parler donc de ce diplomate et surtout de la façon dont Napoléon a conté l'histoire, eh bien, je dirais une historienne, une férue aussi, une grande fan, je pense, de Napoléon Bonaparte. Et donc, nous allons faire connaissance toute cette avec elle pour l'histoire de France de Napoléon aux éditions Passé Composé. Bonjour Camille Duclair.
Bonjour Claudine.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes. Je disais pour cette histoire de France de Napoléon vue par Édouard Bignon et préfacée et je dirais l'anthologie dont vous vous êtes occupée. On parlera également de cette thèse de doctorat donc que vous avez consacrée à l'auteur qui était Édouard Bignon. Alors d'abord on va parler justement un petit peu de vous. Qui est Camille Duclair?
Eh bien, je suis archiviste paléographe, donc ancienne élève de l'École nationale des chartes et conservateur du patrimoine.
Oui.
Et j'exerce actuellement comme directrice adjointe de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui est le service qui gère les archives des monuments historiques et le patrimoine photographique de l'État.
D'accord. Et ça, c'est à Paris, donc?
Oui, c'est à Charenton-le-Pont, juste à côté de Paris.
D'accord. Eh bien, écoutez, c'est fort intéressant. Je sens que je vais garder vos coordonnées. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi vous êtes intéressée à Édouard Bignon pour votre doctorat? Alors, on le rappelle, hein, Édouard Bignon, qui est l'auteur donc du livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un diplomate qui est né en 1771. En Seine-Maritime, à Mayerville-sur-Seine, voilà, et qui est décédé, je crois, en 1841 à Paris. Donc, il est décédé bien plus tard que Napoléon, parce que Napoléon Bonaparte est, je le rappelle, décédé donc le 5 mai 1821. Pourquoi vous êtes attaché à ce diplomate français qui a commencé sa carrière assez tôt? Il avait à peu près 25-26 ans.
Oui, tout à fait. Alors en fait, lors de notre scolarité à l'école des chartes, chaque élève doit produire une thèse sur un sujet inédit accolé à un fonds d'archives qui n'a jamais été exploité.
Oui.
Donc c'est un peu la donnée de base quand nous rentrons. Et j'avais pour ma part envie de me consacrer à une biographie. Mmh. Et à une biographie d'un homme qui avait traversé la Révolution et les premières années du 19e siècle avec une connotation un peu politique ou diplomatique.
Mmh.
Donc fort de ça, j'ai pris contact avec le professeur Jacques-Olivier Boudon, grand spécialiste de l'histoire napoléonienne, qui m'a proposé de consacrer ma thèse d'école des chartes à Édouard Bignon. Et c'est ensuite dans un second temps que j'ai poursuivi en doctorat. Puisque j'ai d'abord soutenu ma thèse d'école des chartes en 2012 et mon doctorat en 2018. Donc c'est vraiment l'aspect, en fait, de suivre une vie dans une époque très mouvementée et qui me permettait d'enjamber les coupures historiques traditionnelles. En suivant un homme, on ne s'arrête pas en 1789, ni en 1799, et encore moins en 1815. C'était ramener l'histoire vraiment et la voir par ceux qui l'ont vécu.
D'accord. Alors, c'est le baron Pierre-Louis-Édouard Bignon, hein, faut le rappeler. Quand même, c'était un aristocrate, il avait un titre aristocratique. Alors, c'est un des diplomates les plus fidèles auprès de l'empereur, finalement.
Oui, tout à fait. En fait, Édouard Bignon fait partie de cette génération d'acteurs de l'époque qui doit tout à Napoléon.
Eh oui.
En tout cas, à son entourage proche, il est rentré dans la diplomatie en 1797 grâce à Talleyrand.
Oui, qu'il avait remarqué. Oui. Talleyrand de Périgord, hein, mais souvent on ne le sait pas, mais c'est Talleyrand, trait d'union Périgord, hein, bien souvent on ne le sait pas.
Tout à fait. En fait, Bignon était dans l'armée et il voulait en sortir. C'est pas du tout quelqu'un qui a décidé de faire carrière dans l'armée, contrairement à Napoléon. Et il avait attiré l'attention du ministre en lui envoyant des requêtes en vers. Et la petite histoire dit que c'est ça qui qui a attiré l'attention du ministre, c'est sans doute plus prosaïquement sa maîtrise de langue européenne
oui.
et son éducation très classique, hein, qui on sait qu'il est rentré dans la carrière. Et donc, en fait, il y a passé 18 ans et il a été promu à presque tous les grades de la diplomatie.
Oui.
Et c'est vraiment attaché à l'empereur. Il lui est très reconnaissant de cela. Et je pense que il a été très heureux dans la diplomatie et que du coup un attachement est né.
Oui. Alors, d'ailleurs,
ce qui fait qu'il lui est resté fidèle jusqu'au bout.
Oui. D'ailleurs, durant les 100 jours, il fait partie du gouvernement provisoire.
Tout à fait. Il est rappelé. Napoléon arrive aux Tuileries le 20 mars 1815 et le 24, il nomme Bignon sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Donc le ministre est Caulaincourt,
oui.
Et Caulaincourt est assisté de deux sous-secrétaires d'État, Bignon et Otto, qui est un autre diplomate qui avait été envoyé notamment en Angleterre.
Mm.
Et Bignon, en fait, accepte de rallier Napoléon pendant les 100 jours, ce qui n'était
oui.
pas évident.
Mm.
Pendant la première restauration, il avait été mis en inactivité, car très fortement connoté et lié oui. à la personne de l'empereur.
Oui.
Et donc ce ralliement, pour moi, est à la fois un choix personnel et aussi sans doute un peu opportuniste, dans le sens où il ne pouvait de toute façon plus avoir rien à faire avec les Bourbons.
Oui.
Mais alors, il fait partie de ses derniers fidèles hein,
oui. Oui.
pendant les 100 jours.
Alors on va en parler pour finir sur la carrière de Bignon, qui est quand même assez remarquable finalement. Il a été commissaire du gouvernement, il s'est occupé de l'Autriche, de la Pologne. Il est mort finalement à un âge relativement élevé pour l'époque, un peu plus de 60 ans quand même, pas loin de 70 ans d'ailleurs. Et donc il a fait quand même une belle carrière après, puisque l'empereur est parti en 1821 et Édouard Bignon est décédé en 1841. Donc il a continué à faire malgré tout une belle carrière. Il a continué. Alors il a été aussi un peu sous Louis-Philippe également.
Oui, tout à fait. En fait, il illustre un peu le sort de ces hommes qui ont été façonnés par l'Empire
oui.
et en même temps qui continuent à vivre après la chute
Bien
de
sûr.
L'Empire.
Mmh.
Lui, il n'est pas exilé à Sainte-Hélène, il n'est même pas proscrit, il ne fait pas partie des plus connus des fidèles de Napoléon qui avaient également vécu sous la Révolution et voté la mort du roi. Ce n'était pas son cas, il était trop jeune à cette époque
oui.
pour avoir joué un rôle durant la Révolution. Et donc, en fait, on arrive en 1815 et pour lui, la vie continue, en fait. Il faut continuer à vivre. Et après une retraite prudente pendant 2 ans, il bascule dans la vie politique et devient député à la Chambre et député d'opposition,
oui.
bien sûr, cela s'explique par son parcours précédent. Et du coup, à ce titre, est proche des libéraux, fait partie du mouvement des libéraux, et rallie Louis-Philippe dès le début de la Révolution de 1830. Hein, il joue un petit rôle pendant les journées, les Trois Glorieuses, pendant les journées révolutionnaires.
Mm-hmm.
Et donc, il poursuit encore 10 ans sa carrière politique.
Mm. Effectivement, ça a été une belle carrière. Alors, le livre, donc, il y a 9 chapitres. Hein, bien sûr, ça part du consulat, ensuite la grandeur d'un empire, Waterloo, enfin les 100 jours, Waterloo, etc. Plus plein d'annotations. Comment avez-vous choisi Alors, il faut rappeler aussi que donc Napoléon, malheureusement, est très affaibli. Donc, il y a d'abord 6 tomes qui vont, je crois, de 1829 à 1830. Et en tout, il y en aura 14, hein, je crois, de cela.
Tout à fait. Bignon, qui a été chargé par Napoléon dans son testament d'écrire l'histoire de la diplomatie française,
oui.
donne un cadre un peu plus large à ce mandat, puisqu'il propose une histoire de France, du consulat et de l'Empire, et initialement avait prévu de limiter son propos à une petite dizaine de tomes. Mais finalement, je pense que l'écriture aidant, il devient plus bavard, il a accès à un grand nombre de sources, il a à cœur de retranscrire, et donc son œuvre finale compte 14 tomes, dont 10 rédigés de son vivant, et les 4 derniers qui sont posthumes et qui ont été réaménagés, réécrits par son gendre.
D'accord.
Et qui paraissent quelques années après sa mort.
D'accord. Alors comment avez-vous élaboré le livre dont nous parlons aujourd'hui, l'histoire de France de Napoléon ? Comment ça s'est passé ?
Alors l'idée était de mettre à disposition du public l'œuvre de Bignon, donc 14 tomes, ça fait un peu plus de 6500 pages.
oui.
Il n'était donc pas question de proposer une édition intégrale, surtout que l'histoire aujourd'hui ne s'écrit plus tout à fait comme en 1830.
Nous aurions passé 8 jours ensemble là hein, pour parler.
Ça aurait été avec grand plaisir, mais c'est vrai que je crois qu'on peut le dire, Bignon est parfois un peu bavard,
oui.
et en citant très largement ses sources, finalement se répète un peu.
Oui.
Et son histoire a des passages qui sont très convenus, en particulier sur l'histoire militaire.
Oui.
Donc le pari était de montrer à la fois ce qui faisait l'originalité de l'histoire de France de Bignon et de donner aussi un aperçu de la production éditoriale de l'époque. Donc partant de là, la diplomatie qui est au cœur de l'ouvrage a été privilégiée dans la sélection des extraits et aussi le confort du lecteur pour éviter les nombreuses redites ou les paragraphes introductifs qui s'étendent sur 30 ou 40 pages.
Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on rentre vraiment au cœur de la diplomatie française, au cœur de l'histoire de France, c'est-à-dire loin un peu des batailles, de ce que l'on connaît, des batailles, des amours de Napoléon, tout ce qu'il a construit, tout ce qui fait aussi notre France aujourd'hui. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, ce point raté à propos de l'esclavage. Là, ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans la vie politique, économique et sociale française de l'époque.
Oui, tout à fait. Il y a justement cet aspect qui est très intéressant, la description d'un système vu par un de ses acteurs,
oui.
Au rôle certes secondaire, ce n'est pas un grand ministre, un grand proche de Napoléon, mais c'est quelqu'un qui a été chargé d'appliquer au quotidien le système diplomatique.
Et justement, c'est peut-être d'autant plus objectif.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, il y a une relecture par Bignon de ces années-là à l'aune de son expérience lorsqu'il écrit. Et lorsqu'il écrit, il est député, libéral, attaché aux libertés individuelles et politiques, qui n'était pas forcément le cas dans les années d'Empire.
Oui.
Et donc, on a toujours cette double lecture, celle d'un diplomate attaché à Napoléon, un diplomate qu'on pourrait appeler un peu de gloire, qui a promu une politique... agressive, offensive en tout cas vis-à-vis des autres pays. Et on a également les réflexions d'un libéral qui sait que le régime de Napoléon était un régime dictatorial, mais qui était finalement un régime dit du moindre mal.
Oui.
Donc on a vraiment ces deux visions qui cohabitent et qui sont très intéressantes.
Alors, outre le fait, c'est vrai qu'il soit bavard, moi j'ai quand même eu le au travers du livre, des textes et puis de lire sur l'homme, d'un diplomate assez discret, efficace, courtois, intègre et qui était heureux de raconter cette histoire-là et qui en avait une image assez, dirais-je, positive. Mais j'ai trouvé que c'était l'esprit d'un homme intègre. C'est ça qui m'a frappée surtout.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Pour l'avoir fréquenté de longues années, Bignon est un honnête homme. C'est un homme vraiment qui a conscience de ses limites. Ce n'est pas un homme de système. Il n'a pas une vision à la Talleyrand sur l'Europe. C'est un homme un peu pragmatique, mais c'est un homme honnête qui sait ce qu'il doit à l'empereur et qui sait aussi ce qu'il n'est pas.
Ouais.
Lui-même.
Alors, on a le sentiment aussi au travers du texte, de l'écrit, que Napoléon lui fait confiance et l'admiration, c'est pas le mot que je cherche, mais on a l'impression que c'est un homme en qui il a confiance pour justement retracer la vie diplomatique du moment. Est-ce qu'il est libre dans son écriture, dans la façon d'analyser les choses?
Alors pour reprendre ce que vous dites, tout à fait, Napoléon a confiance en Bignon. On sait très peu de choses sur les relations qui ont pu exister entre les deux hommes. On a la certitude qu'ils se sont rencontrés au moins une dizaine de fois, qu'il y a eu des audiences de part en part. On a quelques petites traces du jugement que Napoléon avait envers Bignon dans sa correspondance.
Oui.
Une ou deux fois, Napoléon loue la qualité de sa correspondance diplomatique en disant à un de ses ministres « Je ne suis satisfait que de la correspondance de mon ministre Abad, qui est Bignon à l'époque, et en Espagne.
Oui. »
Et une fois, lorsqu'il l'envoie en Pologne, en 1811, donc à une époque où déjà les relations avec la Russie se tendent et se crispent, il dit « J'ai besoin d'un homme qui est intelligent. » Et il cite Bignon. Donc, il y a vraiment une reconnaissance des mérites de Bignon qu'il a éprouvé depuis une dizaine d'années. Et il sait qu'en lui demandant d'écrire l'histoire de France ou une histoire diplomatique, Bignon a les capacités de le faire puisqu'il aura accès aux archives diplomatiques. Il sait ce qu'il y a dedans puisqu'il l'a vécu. Et il a confiance aussi en lui pour restituer quelque chose d'intelligible. Il y a vraiment ce triple processus à l'œuvre. Bignon sait où chercher, c'est comment le dire et c'est comment le faire comprendre. Donc là-dessus, Napoléon, une fois encore, a repéré des hommes capables de faire ce qu'il attendait d'eux. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait neutre. Il a été chercher quelqu'un qui lui était fidèle, qui lui devait beaucoup de choses. il n'a pas été demander ça à des plus proches, il n'a pas demandé ça à Talleyrand.
C'est ce que j'allais vous dire.
Ça n'aurait pas donné exactement la même chose.
Non.
Et il n'a pas demandé ça non plus à Caulaincourt, qui est un autre proche,
un autre proche,
l'a rejoint pendant les 100 jours. C'était moins envisageable, puisque c'était déjà un peu plus son égal. Ce n'est pas du tout le cas de Bignon. C'est vraiment une tâche du maître à un de ses serviteurs.
Oui.
Mais Bignon, finalement, relève un peu le défi et propose quelque chose d'assez original. Il a conscience que ça peut être un argument en sa défaveur, qu'il sera taxé de partialité.
Oui.
Mais il est assez honnête, une fois encore. Et finalement, quand il montre son admiration pour l'empereur, il le fait très franchement. Il le fait sans se cacher. Qui fait que du coup, c'est assez agréable pour le lecteur aussi.
Alors, j'ai le sentiment aussi que, bon, il lui fait confiance, il a besoin d'un homme intelligent, d'un homme intègre, comme on le disait avec Caulaincourt et Talleyrand, ça n'aurait peut-être pas été du tout du même acabit. Mais j'ai quand même l'impression qu'au travers des écrits, il a conscience, peut-être Bignon, qu'il écrit aussi pour la postérité de l'empereur, pour l'image de l'empereur.
Oui, bien sûr. Il sait, en tout cas, il peut espérer que ce sera lu. Et qu'à partir de là, ça aura d'autant plus de poids qu'il l'a connu. Il écrit toujours comme historien et comme acteur. C'est toujours une dimension qui est présente. Il le sait et en même temps, il reste modeste aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui va inventer des rencontres avec l'empereur, qui va poser aux confidents de l'empereur. Il ne le fait pas. Et du coup, je pense que ce témoignage a d'autant plus de valeur.
Oui, jusqu'au bout de la démarche, il est honnête.
Oui, tout à fait.
Il ne se revendique pas que l'empereur, il ne voit que moi, il n'entend que moi, il n'y a que moi qui écrit sur lui. Il reste honnête dans la démarche et c'est ce qui en fait sans doute la force du témoignage aussi.
Oui, tout à fait. Et il reste d'autant plus honnête qu'il cite toutes ses sources.
Oui.
Et une fois de plus, à mettre à son crédit, il ne revendique pas quelque chose d'inédit. Pas du tout. Il a à cœur de dire où il a trouvé l'information, auprès de qui, dans quelques cas, puisqu'il a sollicité, non seulement il a dépouillé des fonds d'archives, mais il a sollicité les confidences de plusieurs grands acteurs de la période. Talleyrand, on en parlait, Caulaincourt, ou encore Daru, l'intendant général de la Grande Armée. Et il le dit bien. Il dit « cette confidence m'a été faite par un tel ». Et donc, il a vraiment cette grande honnêteté de l'historien de bien indiquer d'où vient son propos.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, moi, il y a un des chapitres qui m'a le plus marqué sur les propos de Bignon, c'est sur les 100 jours, la façon dont les choses se sont passées. On est vraiment là dans la coulisse, parce que les 100 jours, bien évidemment, les discours de Napoléon, son retour victorieux, etc. Mais là, on est vraiment dans la coulisse de la diplomatie, avec aussi un citoyen français qui a ce regard sur ça et non pas un grand de l'époque, dirais-je. Mais c'est vraiment l'œil aussi du citoyen français.
Oui, les 100 jours, c'est vraiment le point de bascule de la vie de Bignon, en fait.
Oui.
C'est ce qui fait qu'il y a un avant et un après. Alors, c'est commun, évidemment, à beaucoup de personnes de l'époque. Mais c'est le moment où il s'est engagé de façon irrémédiable. On sait, fin mars 1815... que visiblement ce ne sera qu'un épisode. Tout le monde sent bien que Napoléon a fait ce retour seul, qu'il n'est pas soutenu par les cours européennes et encore moins par l'Autriche sur laquelle il comptait.
Bien sûr.
Et du coup, ça donne encore plus de force à cet épisode. Et Bignon soutient l'empereur et une fois que l'empereur a abdiqué, il y a un petit interrègne d'une quinzaine de jours, s'efforce de préserver la France qui est envahie à ce moment-là par les armées anglaises et prussiennes et il s'efforce de protéger ce qui reste à protéger. C'est vraiment, effectivement, vous dites, une démarche de citoyen. Il veut protéger le pays, il veut protéger les gens qui ont été autour de Napoléon et tenter d'obtenir des garanties.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que On s'aperçoit que, bon, on connaît les différentes facettes de l'empereur, mais au travers de Bignon, on découvre l'empereur, mais aussi on découvre l'homme au sein de l'empereur, au sein de la diplomatie, avec les controverses du moment, avec les différents rapports entre les uns et les autres. Et on s'aperçoit finalement que Bignon est peut-être plus diplomate que l'empereur.
Oui, alors oui et non. Il y a eu des moments où l'empereur s'est emporté. On peut penser à des scènes assez connues devant l'ambassadeur britannique.
Par exemple.
Puisque l'Angleterre veut la guerre, elle l'aura.
Voilà, alors, c'est ça.
Il déchire les traités. Mmh. Ou en 1811, hein, devant l'empereur russe, l'ambassadeur russe, pareil. Et c'est vrai qu'ensuite, dans un second temps, les envoyés français ont pour mission de calmer, de tempérer les propos de l'empereur, qui sont su et rapportés un peu dans toutes les cours d'Europe. Mmh. Mais Bignon, en fait, avait un caractère assez trempé, et il a été assez amusant de voir dans la correspondance qu'il y a peu de postes diplomatiques où il n'a pas eu des rapports compliqués avec certaines personnes, et que ce soit avec ses prédécesseurs dans la diplomatie, ou parfois, et c'était peut-être plus embêtant pour lui, avec ses interlocuteurs de son pays d'affectation. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on se demande toujours dans quelle mesure le fait qu'il représentait la France, pays hégémonique du continent, n'influait pas son discours. Quand on est l'envoyé de Napoléon Bonaparte, on a un discours effectivement plus agressif que quand on est l'ambassadeur de la Prusse.
Oui. Alors, moi, Bignon, je le vois aussi un peu comme un homme discret, on le disait, mais un peu l'homme de l'ombre, l'homme de confiance par rapport à la mission que lui a donnée l'empereur, mais aussi l'homme de l'ombre, c'est-à-dire qui va écrire, on le disait, avec beaucoup d'honnêteté, qui rapporte quand on lui rapporte des anecdotes, les sources qu'il peut avoir. C'est un homme discret. Mais est-ce qu'il a eu finalement la carrière et la reconnaissance qu'il aurait pu mériter, parce que c'est un homme malgré tout brillant et intelligent?
Alors oui, quand on voit d'où il part, c'est-à-dire d'une famille, si ce n'est pauvre, du moins modeste.
Très modeste, oui.
C'est capitaine dans la marine marchande. Il a fait des études d'abord localement, puis à Paris, grâce à l'appui d'une marquise locale.
Oui.
Il a eu une très belle carrière. Mmh. Le seul rang diplomatique qui lui a échappé, c'est celui d'ambassadeur de France.
Oui.
Mais rien que de passer ministre plénipotentiaire,
bien
c'est quelque chose qui arrivait à moins d'une dizaine de personnes qui avaient des origines roturières pendant la période. Donc, il y a 177 diplomates de Napoléon qui ont été recensés. Mmh. Et donc, pour ceux qui viennent du tiers-État, dont Bignon,
ouais,
une dizaine ont accédé à ces rangs supérieurs de la diplomatie. Donc, c'est une très belle carrière, vu l'époque.
Mmh.
Ensuite, justement, vu l'époque, il n'était pas noble.
Mmh.
Donc, il y a eu toujours ce plafond de verre qui l'a contraint et qui a fait qu'il n'a pas pu accéder au rang d'ambassadeur.
Mmh.
Mais ça ne l'a pas empêché, à côté de ça, d'incarner vraiment ce passage de la société d'ordre à la société des notables français. Quand il meurt en 1841, il est pair de France,
oui,
il a été élu député pendant 20 ans, président du conseil départemental de l'Eure. Il a accompli une très très belle carrière.
Très belle
C'est
carrière.
Un vrai exemple de progression sociale fondée sur le mérite, et pas tellement sur le favoritisme.
Une forme d'ascension sociale au mérite, en fait.
Oui, tout à fait.
Est-ce que... j'ai essayé de transposer Bignon, le baron Édouard Bignon à aujourd'hui, et je me disais, ce serait pas mal plus d'hommes comme lui, finalement. En matière de diplomatie ou politique.
En tout cas, c'était un exécutant très fidèle des ordres qu'on lui donnait. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de tentation de jouer un double jeu ou de se mettre en avant lui.
Mmh.
Il était vraiment circonscrit par les ordres de Napoléon et s'y tenait. C'était un homme intègre. Il a été très brièvement ministre en 1830, après la Révolution.
Mmh.
Et il a été ministre un mois et a refusé de toucher le traitement qu'on lui destinait. Dans son inventaire après décès, on trouve la trace de ce transfert de salaire qu'il a rendu au Trésor public.
Oui.
Donc vraiment une intégrité jusqu'au petit détail.
Ah, oui.
Et de la même façon, il a administré des territoires en Prusse lorsque le pays a été occupé entre 1806 et 1808.
Mmh.
Et il n'y a pas eu, visiblement dans les sources, d'exactions qu'il a commises ou qu'il a même couvertes. C'était quelque chose auquel il était très attaché.
Mmh.
Et pareillement, en 1812, quand il était en Lituanie, il veillait scrupuleusement à ce que les gens sous ses ordres et lui-même soient exempts de tout reproche là-dessus.
Mmh. Est-ce qu'il a des descendants aujourd'hui que l'on connaît ?
Alors, il a eu une unique fille en 1823, qui a eu ensuite des enfants, et la famille est restée très attachée au domaine qu'il avait acquis dans l'Eure.
Oui.
Et puis, la trace de père à peu près vers 1940. En fait. Il y a des descendants indirects, mais pas directs.
D'accord. Parce que nous, dans la région, nous avons un village qui s'appelle le Bignon-Mirabeau. Alors Mirabeau, parce qu'il y a un château qui a appartenu au marquis de Mirabeau, mais le village, c'est le village Bignon-Mirabeau.
Oui, effectivement, Bignon est un nom qui est implanté dans cette partie de la France. Il y a d'autres Bignons célèbres aussi, qui ne sont pas liés aux nôtres.
Alors, avez-vous d'autres projets sur l'empereur ou d'autres projets d'écriture? Dites-nous tout, Camille, nous voulons tout savoir.
j'ai beaucoup apprécié cette découverte du premier 19e siècle grâce à Édouard Bignon.
Oui, je comprends.
L'Empire, et puis ces années après l'Empire aussi. Mm-hmm. Quel est le legs un peu de l'Empire? Mm-hmm. Et du coup, je m'intéresse aussi à ces générations un peu plus jeunes que Bignon, qui naissent juste avant la Révolution, dans la décennie 1780 ou 1790, et qui n'ont pas connu directement l'Empire, mais qui ont vécu avec le souvenir qu'il y a là-dessus. Donc c'est un peu ce vers quoi j'aimerais me pencher maintenant.
Donc on vous retrouvera avec plaisir dans ces nouvelles recherches, avec d'autres textes, voilà, qui pourront nous ravir. En tout cas, moi j'ai adoré ce livre, très intéressant, passionnant, au cœur de la diplomatie française sous l'empereur, de Monsieur Édouard Bignon, et bien sûr fort raconté et bien écrit, ou en tout cas sous votre plume, réédité et remise au goût du jour. Donc l'histoire de France de Napoléon, c'était aux éditions Passé composé avec Camille Duclair. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous, Camille. J'espère vous retrouver un jour à ce micro pour d'autres aventures de cette belle histoire de France ou d'ailleurs.
Eh bien, merci beaucoup. C'était un plaisir partagé.
Merci beaucoup, Camille, et bonne continuation et à très bientôt.
Merci.
Quant à nous, bien, nous nous retrouvons pour une prochaine émission. Ce sera la surprise, vous verrez, une nouvelle aventure littéraire. En tout cas, portez-vous bien en attendant. À bientôt.
Shoot.